Merci, mon colonel. Tout de suite, nous passons aux questions et réponses. Comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Je voudrais aussi vous rappeler que nous avons dans cette salle d'autres collègues qui viennent des agences, fonds et programmes des Nations Unies. Vous pouvez aussi leur adresser vos questions. Nous prenons la première question avec la dame à ma droite.
Bonjour, Émilie Camoigna pour le compte de KIN24 Télévision. Déjà, nous aimerions savoir quelles précautions vous avez pour stopper le déploiement du virus Ebola, pour la ville province Kinshasa, aussi avoir votre analyse de la défection de John Chibangu, qui lui était commandant de la 4e région militaire des FARDC.
Merci. Nous avons avec nous quelqu'un de l'OMS. Où est-ce qu'il est? Docteur Mundumbi? Il n'est pas encore là? Il est là? Ok, le docteur n'est pas encore dans la salle. Nous l'attendons donc incessamment. Il pourra apporter un éclairage à votre question. Pour ce qui concerne la deuxième question, je laisse le lieutenant-colonel Bass vous répondre.
Oui, madame, tout comme vous, nous avons constaté, ou il nous a été rapporté, la défection du commandant de la 4e région militaire. Maintenant, quelles sont les raisons qui filtrent de cette défection? Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'éléments concordants parce que les enquêtes se poursuivent, mais tout ce que nous savons c'est que au niveau des FARDC des mesures idoines ont été prises justement pour essayer de rechercher et de rattraper le fugitif afin de le ramener dans les rangs. C'est ce que nous avons pour le moment entre les mains.
Merci. Deuxième question, toujours une dame. Où est le micro, s'il vous plaît? Il y avait un micro par ici. S'il vous plaît, où est le micro qui était ici?
Oui.
Ou ici, juste ici.
On est allé chercher.
Allez-y, madame.
Sandra Mbombo pour la compte de Congo Web Télévision.
On ne vous entend pas.
Sandra Mbombo pour la compte de Congo Web Télévision. Ma question est celle-ci. Comment la MONUSCO va cohabiter avec la force neutre?
Bon, pour le moment, cette force n'existe pas encore, donc je dirais que la question ne se pose pas puisque nous ne connaissons ni sa composition, ni son mandat, ni comment elle va opérer. Donc à ce stade, ce serait difficile de répondre à cette question. Nous prenons la prochaine question, sur la droite toujours. Il n'y en a pas. Devant moi donc, au fond. Au fond. De quoi c'est? Chine Nouvelle?
RTGR. Philemon Longonia, RTGR. La première question, je m'adresse aux humanitaires. Qu'est-ce qui est fait concrètement en ce qui concerne les déplacés dans le Nord Kivu? Et vous avez parlé de cas de viol et d'autres abus contre les déplacés. Qui sont à la base de ces viols? Et la dernière question, c'est au colonel. À ce qui concerne le déploiement, il y a des rumeurs qui font état, des informations qui font état du renforcement des unités rwandaises tout au long de la frontière ou aux côtés de M23 actuellement. Quelle en est la situation, surtout dans les zones où il y a une présence de la MONUSCO?
Ah, merci. Médard.
La question sur les déplacés au nord Kivu. Donc, comme vous le savez, il y a plus ou moins 600 000 personnes déplacées internes au nord Kivu. Donc, il y a des gens qui sont déplacés depuis un bon bout de temps. Il y a de ceux-là qui ont été déplacés à cause de l'activisme du groupe M23 et autres. Les humanitaires apportent toute forme de secours à ces personnes. Donc, ils apportent la nourriture, donc l'assistance alimentaire à ceux qui sont accessibles. ils apportent la protection à ceux qui sont également accessibles, ils apportent des soins de santé primaires aux différentes personnes, et puis des biens non alimentaires, ainsi que l'abri d'urgence. Mais le problème qui se pose, comme dans toute zone de guerre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas accessibles. Donc, si les gens ne sont pas accessibles à cause de l'insécurité, il n'y a aucune possibilité pour que les acteurs humanitaires leur apportent l'assistance qu'il faut. Et si les personnes sont également dans des zones qui sont peu sécurisées, l'aide humanitaire ne peut pas être apportée pour que ça ne serve pas d'appât aux assaillants. Donc ça, c'est la situation. Si vous avez besoin de précisions sur les chiffres et tout ce qui est fait, vous pouvez me contacter après la conférence de presse.
Merci, mon colonel.
Merci pour votre question, qui, à mon avis, comporte deux volets. Le premier volet a trait au déploiement des troupes rwandaises le long de la frontière avec le Rwanda. Sans pour autant être spécifique là-dessus, ce que je peux dire, c'est que dans tout gouvernement est habilité ou a la latitude de déployer ses propres forces le long de ses frontières, à titre de mesure conservatoire. Et le deuxième volet dont vous faites mention a plutôt trait au déploiement massif de troupes rwandaises aux côtés du M23. D'abord, il faut observer qu'il y a un statu quo qui est relatif actuellement sur la ligne de front, et que certes des éléments de nationalité rwandaise ont été faits prisonniers il y a quelque temps de cela au cours des affrontements qui ont eu lieu, et que ces gens, il a été prouvé effectivement qu'ils sont de nationalité rwandaise. Maintenant, quant à parler d'un déploiement massif de troupes rwandaises aux côtés du M23, je ne saurais spéculer là-dessus tant qu'il n'y a pas d'informations fiables, concordantes et recoupées à ce sujet-là. Mais toujours est-il que la force de la MONUSCO déployée dans cette zone-là continue aussi à évaluer et à surveiller de très près la situation afin d'en faire les rapports idoines acquis de droit.
Merci. Le docteur est là, donc on va lui passer la parole pour qu'il réponde à la question concernant Ebola. Docteur,
si on peut répéter la question.
La question de savoir, la question c'était la.
La question, Michel, de savoir quelles précautions vous aviez déjà mis sur pied pour stopper l'évolution de cette épidémie qui a déjà.
Ok, merci, docteur.
Ok, merci bien. La première précaution importante, c'est les mesures de contention de l'épidémie à son foyer d'origine. Et comme vous savez, pour le moment, c'est Isiro, ce sont les cas d'Isiro qui ont été diagnostiqués positifs, et nous avons pris des mesures localement et dans toute la contrée, dans les zones de santé voisines, pour renforcer la surveillance des maladies, pour prendre en charge rapidement les cas qui sont affectés, renforcer les mesures d'hygiène et les mesures d'éducation. Ça, c'est la première mesure. Maintenant, dans tout le territoire national, nous avons également renforcé les mesures d'information, de communication et d'éducation de la population, ainsi que le renforcement des mesures de surveillance. Aussitôt que le foyer sera contenu à son point de départ, il va sans dire que donc l'expansion sera effectivement limitée.
Merci. Je pense que le docteur est encore là. Vous pourrez le voir après la conférence de presse si vous avez besoin de plus d'explications. Nous prenons la prochaine question, toujours à côté de RTGA.
Oui, c'est encore un autre RTGA. C'est Joseph Digol-Mkundi de RTGA Radio. Ma question est de savoir, il y a une défection au centre du pays. Nous le savons très bien qu'à l'est, c'est déjà de la routine. Comment la MONUSCO compte s'y prendre s'il y a encore une défection à l'ouest du pays?
Ces défections sont au rang des FARDC. Ce ne sont pas les soldats de la MONUSCO qui sont en train de déserter. Par conséquent, posez la question aux FARDC. Ce sont ces éléments. Nous prenons la prochaine question, toujours au fond. Non, passez le micro derrière, s'il vous plaît.
Merci. Je suis Berry Franklin Luchaka pour Radio Okapi. En fait, mes questions s'adressent au colonel. C'est tout justement à propos de la défection du colonel Tshibangu. Le premier volet de ma question, c'est de savoir est-ce que, par rapport au rapport que la MONUSCO a pu avoir, on sait localiser le colonel John Tshibangu. Deuxièmement, est-ce que la défection du colonel Tshibangu constitue une forme d'insécurité pour la population locale? Si oui, quelles sont les mesures que la MONUSCO a prises pour que les populations locales vivent en sécurité? Merci.
Merci. Mon colonel.
Oui, pour la première question, nous ne pouvons pas vous dire avec certitude où se trouve le colonel Tshibangu. On a dit qu'il est en fuite et que les FRDC, le commandement FRDC est à ses trousses pour essayer de le rechercher et de le capturer. Donc si on savait où est-ce qu'il serait et où est-ce qu'il était, il serait déjà capturé. Pour la deuxième question, quelles sont les mesures que la MONUSCO a prises? Vous savez, toute nouvelle défection porte en elle-même une menace sécuritaire, parce qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'elle va évoluer, cette défection, jusqu'où est-ce que cette défection traînera ses conséquences. Mais c'est une défection FRDC, et le commandement militaire FRDC est avisé et tout à fait déterminé justement à arrêter ce militaire en fuite, afin aussi de ne pas faire des émules et de pouvoir, comme on dit, arrêter cette hémorragie qui n'avait pas été encore décelée à l'ouest. Bien sûr, vous l'avez dit vous-même que c'était à l'est, mais à l'ouest, ça n'avait pas été encore observé. Et donc, dans ce cas-là, les FRDC ont pris toute la mesure du problème et sont en train de trouver des solutions à ce problème-là.
Merci. Nous prenons la dernière question à droite. Oui.
Christian Béla de la télévision Sangomalamu. Docteur, vous nous avez parlé de mesures préventives pour la fièvre Ebola. Alors, j'aimerais savoir comment on peut détecter cette maladie, et est-ce qu'il y a moyen de vivre avec, comment vivre avec la personne qui vit de l'épidémie Ebola?
Ok, merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moyen de reconnaître rapidement une personne malade. Une personne malade va se présenter avec des signes de fièvre et des signes hémorragiques sur le corps, mais qui peut se manifester, ces signes hémorragiques peuvent se manifester à des endroits différents. Si c'est à l'œil, ça se présentera sous forme des yeux rouges. Si c'est au nez, ça se présentera sous forme des écoulements nasaux de sang qui coule. Si c'est dans la bouche, ça se présentera comme si quand quelqu'un se brosse ou bien il y a des salives sanglantes. Si c'est sur la peau, surtout une peau blanche, c'est facile à voir. Mais si c'est la peau noire, ce sera sous forme de pétéchies. Et parfois, ce sont des diarrhées sanglantes. Donc, il y a tous les signes d'hémorragie qui vont entourer une fièvre brutale, et laquelle fièvre ne baisse pas au traitement usuel. En ce moment-là, on peut suspecter les cas. Mais il n'y a pas moyen de vivre à côté de la personne malade. Il est recommandé justement un isolement immédiat. La personne malade doit vivre dans un centre d'isolement jusqu'au moment de sa guérison. Et il est bien entendu que lorsque la personne est suspectée, l'équipe médicale viendra faire des screenings, faire des prélèvements et avoir des résultats de laboratoire. Mais il n'y a pas moyen de vivre avec la personne malade. Il faut qu'elle soit rapidement portée à la connaissance de l'équipe médicale pour prendre des dispositions d'isolement.
Merci.
Donc, la maladie est très contagieuse.
Prenons la prochaine question. Nous allons avancer sur la gauche. Oui.
Oui, Nkiremé de l'Agence congolaise de presse. Je vais poser une petite question au docteur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a regain des différentes épidémies à travers le pays? Qu'est-ce qui est à la base de ça, alors que le gouvernement appuyé par l'OMS est censé prendre des mesures préventives? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Parce que dernièrement, on a parlé du regain de l'épidémie de choléra et puis la rougeole et maintenant c'est Ebola, ce qui est dangereux pour le pays. Qu'est-ce que vous faites pour arrêter justement cette extension de plusieurs épidémies à travers le pays?
Merci. Docteur?
Ok, je comprends bien la question, mais vous devez savoir que le pays travaille pour le renforcement de notre système de santé, qui fait que s'il y a des malades, on les soigne rapidement. Mais il n'y a pas moyen, quel que soit l'effort qui est fait, d'éviter les catastrophes. Parce qu'il faut considérer que les épidémies sont des catastrophes. Et les catastrophes peuvent... Des épidémies, c'est une sorte de catastrophe. On n'évite jamais des catastrophes. Donc, mais ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'une épidémie s'éclot, il faut la détecter rapidement et réduire le nombre de malades et le nombre de décès. C'est ce que nous sommes occupés à faire. Donc, il y a tout un dispositif qui accompagne notre système de santé pour la détection des épidémies et la riposte rapide. Mais on ne peut pas éviter les épidémies. Pour les cas d'Ebola, c'est justement notre écologie qui nous expose à cette épidémie parce que c'est une maladie qui est considérée au départ comme une maladie animale. Et c'est dans nos travaux habituels de vie quotidienne, surtout dans les villages, surtout la chasse, les contacts avec les animaux morts qui nous exposent. Et au départ de là, la personne qui s'est contaminée, rentrant dans son milieu d'origine, affecte les autres. Et vous comprenez que ce n'est pas facile de changer rapidement notre écologie. Et cette situation dépend d'une épidémie à l'autre. Il y a des épidémies que nous pouvons prévenir par notre propre comportement. Et c'est évidemment à ces niveaux-là que la population est conviée de respecter tous les conseils qu'on leur donne en matière de comportement pour prévenir les risques de maladies. C'est plus ça qui va beaucoup plus jouer pour prévenir les épidémies. Par exemple, pour les cas d'espèces, on vous empêche de prendre les animaux morts et trouver morts et de les manger. Ou par exemple, les mamans qui vont essayer de manipuler pour la préparation les animaux qui sont morts ou bien il doit prendre des précautions. Donc c'est difficile. Alors en fonction de certaines épidémies, il y a d'autres travaux qui peuvent se faire et prévenir. Par exemple les choléras, c'est vrai que si les conditions d'hygiène sont améliorées, on peut réduire les épidémies de choléra.
Merci docteur. RTNC. Ensuite monsieur Marley.
Oui, merci. C'est venant vous dire ça pour la RTNC. Monsieur Mounoubaï, les étudiants congolais, à travers un échantillon représentatif, vous ont déposé un mémo dans lequel ils vous ont demandé de signifier, disons, demandé à la mission onusienne de signifier au gouvernement rwandais de cesser son soutien aux éléments du M23. Vous avez déjà commencé la démarche, où en sommes-nous? Au colonel porte-parole, je m'adresse en ces termes, c'est un constat regrettable. Chaque fois qu'il y a affrontement entre un groupe rebelle et la force régulière, très souvent c'est la force rebelle qui en sort victorieuse. Comment expliquer cela? Je n'ai jamais compris cela. Ce n'est pas seulement pour un quelconque, pour notre pays, mais généralement dans tout le pays, la force rebelle a toujours été victorieuse. Merci.
Vous savez, les Nations Unies, c'est une organisation composée d'États. La MONUSCO, ce n'est qu'une petite formation au sein de cette organisation. Nous n'avons pas de contact direct avec les États. Nous, pour contacter les États, nous sommes obligés de repasser par le Conseil de sécurité qui peut s'adresser aux États. Par conséquent, des pétitions, des démarches de la sorte qui sont portées à notre connaissance, nous en rendons compte au Conseil de sécurité et c'est au Conseil de sécurité de voir comment exprimer ces demandes ou les porter à la connaissance des États concernés. Nous, en tant que MONUSCO, notre rôle, c'est exclusivement ici, au Congo. Nous sommes une mission de paix au Congo. Nous n'avons aucune attribution, aucun pouvoir pour nous adresser à d'autres États. Mon commandant,
oui. Mon colonel. Merci pour votre question. même si je considère qu'elle est évolutive, parce que s'il faut le recadrer dans le contexte actuel, quand vous parlez de rébellion qui prend le dessus sur les armées régulières, je pense que d'abord vous le recadrez dans le cas du Congo, et là je vous dirais tout simplement que ce serait faire un mauvais procès aux forces armées gouvernementales qui s'échinent, qui s'époumonnent tous les jours sur le terrain pour essayer de réduire à néant les groupes armés, et vous conviendrez avec moi que toutes les opérations que nous ne cessons d'égrener chaque week-end ici, qu'elles soient unilatérales ou conjointes avec la MONUSCO, que les FRDC sont en train de faire des résultats sur le terrain, et je pense que Amani Kamilifou en est une illustration patente pour dire que votre théorie, je ne la partage pas concernant justement le cas du Congo. Certes, comme vous le savez, toute opération aussi a des hauts et des bas, toute opération a des moments où on gagne du terrain, il y a des moments où on les perd, c'est ceci le déroulement normal des opérations, mais pour le Congo, je dirais que les efforts sont consentis avec l'appui de la MONUSCO, parfois sans l'appui de la MONUSCO, et ces braves soldats sont sur le terrain en train de remplir au mieux leur mission régalienne. Maintenant, de manière beaucoup plus extensive, parce que vous avez tenté de généraliser justement cette situation, il faudra dire que là encore, je m'inscrirai en faux, parce que vous semblez connaître qu'il y a beaucoup de rébellions tout proches de nous qui jusqu'à présent n'ont pas réussi à avoir le dessus sur les forces gouvernementales. Le Congo est un exemple vraiment palpable où vous avez une foison de groupes armés qui ont des agendas contre leur pays et qui sont au Congo, qui font souffrir les populations congolaises et qui jusqu'à présent n'ont pas pris le dessus sur les gouvernements. Que vous savez, il y a la LRA, il y a tout le monde qui est là, mais jusqu'à présent les choses ne se font pas. Donc je pense qu'il faudra savoir raison garder et faire preuve d'un jugement beaucoup plus clément à l'endroit des forces armées congolaises qui essaient au mieux de faire leur travail.
Marley.
Roger Marley Lukonga, CMCTV. En début de semaine, j'ai lu dans les colonnes des deux respectables journaux de Kinshasa que la MONUSCO attend toujours un signal fort du Conseil de sécurité pour mener un assaut contre les M23 et en finir une fois pour toutes. Ces médias ont-ils raison?
Ah, mon colonel.
Je pense que il y a peut-être une confusion qui émane de la dernière conférence de presse, et je pense bien, monsieur le porte-parole civil, que c'est vous qui avez été nommé à cet effet-là. Mais je pense que non, il faut faire la différence des choses. Au niveau de la MONUSCO, les choses sont très claires. La MONUSCO a un mandat, et ce mandat jusqu'à présent n'a pas varié d'un seul iota, à part peut-être la résolution 2053 qui ajoute un peu, qui replace la réforme du secteur de sécurité au cœur du mandat de la mission, mais notre mandat n'a pas évolué, donc nous ne pouvons pas en finir avec le M23, qui d'ailleurs, actuellement, le FRDC est en train de faire ce qu'il peut, avec le soutien de la MONUSCO, justement pour essayer d'éradiquer ce mouvement M23 qui a été considéré comme une force négative, aussi bien au niveau de l'Union africaine que des Nations unies elles-mêmes.
Nous prenons Chine Nouvelle, tout à fait au fond là-bas.
Merci, c'est Steve Wembi pour la Chine Nouvelle. Monsieur Médard, est-ce que les agences humanitaires apportent leur aide dans les zones contrôlées par le M23? Parce qu'il y a des cas de choléra qui ont été déclarés. Si oui, avez-vous déjà... Quelle période? Et la seconde question, c'est au docteur de l'OMS. Vous avez répondu à une question d'un confrère parlant de l'isolement d'une personne atteinte par l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Vous avez dit jusqu'à sa guérison. Ma question est celle de savoir, existe-t-il un médicament ou bien un vaccin contre cette épidémie? Merci.
Meda.
pour l'accès aux zones contrôlées par les groupes armés, il faut que je précise quelque chose. Donc, pour nous, humanitaires, quand il y a conflit, on considère toutes les parties impliquées comme étant faisant partie du conflit. Donc, il y a de la diplomatie humanitaire qui nous autorise à négocier avec n'importe quel groupe ou organisation pour avoir effectivement accès aux personnes vulnérables, donc à ceux qui ont besoin de l'assistance. Et dans ce cadre, il y a des démarches qui sont faites. Mais il faut que la sécurité des gens qui vont aller assister soit également garantie. Et il faut que nous nous rassurions que l'aide que nous allons apporter ne serve pas d'appât aux attaques des groupes armés. Donc, je ne peux pas vous donner toutes les précisions sur ce qui a été fait, mais si les conditions sécuritaires sont réunies, quel que soit le groupe qui contrôle la zone, nous accédons et nous apportons l'appui nécessaire.
Merci, docteur.
Oui, merci beaucoup. Vous savez que la fièvre hémorragique virale, comme toutes les maladies virales, comme vous le savez, généralement, il n'y a pas de médicaments comme tel. Mais il y a des soins médicaux et des soins de nursing qui accompagnent les malades, qui vont permettre aux malades de mieux résister contre la maladie. Et c'est ça qui est donné. Donc, une personne qui est prise en charge au niveau des centres de traitement, c'est une personne qui va bénéficier des soins médicaux, des soins de nursing. Parce que quand quelqu'un fait la fièvre, il va perdre beaucoup de liquide, et il faut les réhydrater, il faut les nourrir, il va faire d'autres maladies qui l'accompagnent, par exemple les infections, le paludisme, et tout ceci, il faut soigner pour les mettre dans une disposition à lutter contre la maladie. Et l'expérience montre que les cas qui sont détectés tôt, qui ont été pris en charge tôt, à qui on a donné ces soins médicaux, soins de nursing, renforce l'individu dans son immunité et il réussit à faire la guérison. Donc, c'est là. Mais il n'y a pas un médicament jusque-là qui soigne. Et vous savez que nous avons beaucoup de maladies qui sont du même ordre, notamment la grippe et autres. Donc, c'est ce que nous faisons et ça donne effectivement des résultats lorsque nous respectons cela.
Nous allons prendre une dernière question à M. Omba.
Oui, Albert Omba, America TV. La première préoccupation s'adresse au colonel Bass. Mon colonel, la MONUSCO est sur le terrain, sur le territoire occupé par la M23. Est-ce que leur présence sur la frontière entre Ishasha ou Bunagana peut asphyxier Goma approvisionnement à partir de l'Ouganda et du Rwanda? Et la seconde préoccupation, l'autorité provinciale du Nord Kivu a fait état des renforcements des capacités militaires du M23 par des moyens de communication et des unités mobiles. Est-ce que la MONUSCO peut confirmer l'information? Merci.
Je commencerai, si vous le permettez, par la deuxième question, qui est une déclaration du porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Concernant cette information qui d'ailleurs est en train d'être vérifiée sur le terrain, mais jusqu'à présent, de manière je peux dire définitive, on ne peut pas le dire parce que c'est des membres de la société civile du Nord Kivu qui ont fait cette déclaration dans un premier temps, et les services de renseignement et la force de la MONUSCO et ses unités opérationnelles sont en train de vérifier cette information. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas confirmée. Concernant le deuxième volet de votre question, là je ne l'ai pas bien comprise, parce que vous parlez d'asphyxier. Si vous pouvez la reprendre, votre
question. Oui, est-ce que... parce que nous savons que Ishasha, la frontière d'Ishasha et Bunagana constitue un poumon d'entrée pour Goma. Est-ce qu'il y a trafic entre Ishasha et Goma ou Bunagana et Goma?
Vous savez, vous l'avez dit vous-même, c'est un point d'entrée. C'est un poumon économique parce que par là transitent beaucoup de véhicules, beaucoup de marchandises aussi. Et si mes souvenirs sont exacts, le gouverneur du Nord Kivu avait lui-même en son temps demander aux transporteurs, aux camionneurs de manière très générale, de faire un détour pour ne pas passer par Bounagana, où des taxes étaient prélevées par les éléments du M23, donc de l'argent frais qui est censé remplir les caisses du M23. Cet appel avait été fait par le gouverneur du Nord Kivu. Je ne peux pas vous confirmer si cet appel a été suivi à 100% ou s'il y a des véhicules qui continuent à passer par là. Mais toujours est-il que l'un dans l'autre, le volet sécuritaire d'un côté et le volet économique de l'autre, vous savez, le transporteur, il préfère prendre le chemin peut-être le plus court pour arriver à destination parce que le détour, bien sûr, a des incidences économiques sur son portefeuille. Mais la question reste posée, celle de savoir si les gens continuent à passer par là. Je ne pourrais pas vous donner d'autres indications à ce sujet.
Merci, merci mon colonel, merci à tous, merci d'être venus à notre conférence de ce jour. Nous remercions nos auditeurs de Radio Okapi qui nous ont suivis en direct et nous donnons rendez-vous mercredi prochain.